Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Étudiants français, étudiants européens, si vous ne vous combattez pas pour que cette mesure ne passe pas, sachez que dès la rentrée, vous ne verrez plus aucun étudiant africain sur le campus.
Bonjour à tous. Les étudiants internationaux, une manne pour les universités occidentales. La France, quatrième pays en termes d'attractivité sur ce marché mondial, puisqu'il s'agit bien d'un marché, voudrait faire plus, entendez, voudrait attirer plus que les 343 000 étudiants qui sont venus étudier dans l'Hexagone l'an dernier. Et pour cela, il y a une stratégie intitulée « Bienvenue en France ». Mais une des mesures de ce plan fait particulièrement polémique, l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants non européens, qui passera de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros par an. 7 universités sur 75 appliquent pour l'instant cette hausse des tarifs. Ailleurs, on fait de la résistance, comme la Sorbonne, où les augmentations ne s'appliqueront pas cette année. Reportage sur place de Léa-Lisa Westerhoff.
On va regarder le deuxième texte que je vous ai donné, mais aussi les frais de scolarité.
Dans ce cours de français langue étrangère, le sujet du jour, c'est les frais de scolarité.
L'égalité des chances dans le système universitaire.
Nous sommes dans une annexe de la mythique université de la Sorbonne, au cœur de Paris. Ici, l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers est dans tous les esprits.
C'est dommage, parce que c'est génial d'avoir les étrangers... comme moi.
Isabella, 22 ans, ingénieure diplômée et catégorique. À 3770 euros le master, elle n'aurait pas pu venir étudier le français.
Le fait de venir ici, de la Nouvelle-Zélande, c'est déjà très très cher. Et les coûts de vivre ici sont déjà très très hauts en comparaison avec la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est trop cher.
Et nous, quand on rentre dans cette pays.
Autour des tables blanches disposées en U, Ronnie Ping, venue de Chine pour un master de français langue appliquée, est elle aussi perplexe.
Je suis un peu inquiète parce que je ne sais pas, mes parents puissent payer ce tarif 15 fois plus cher, c'est inquiétant.
L'objectif du gouvernement est pourtant d'augmenter l'attractivité des universités françaises. Quatrième pays à accueillir le plus d'étudiants étrangers, leur nombre a baissé ces dernières années. La France craint donc un décrochage par rapport aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne. Au tableau au feutre bleu, Sandrine Aragon a inscrit la devise de l'école française, une école laïque, gratuite et obligatoire. Professeure de français langue étrangère, elle craint que cette mesure ne serve surtout à choisir les étudiants les plus riches.
Moi j'ai eu des étudiants, beaucoup, qui me disaient « moi je ne pourrais plus payer, là maintenant je vais devoir repartir, j'avais un projet de master, mais je ne vais pas pouvoir continuer, mes parents ne peuvent pas financer. » Ceux d'Amérique latine, des Indonésiens, des choses, c'est un investissement important. Donc là aussi, il faut peut-être des variations des prix suivant les pays, de façon à ce qu'on puisse retrouver une mixité.
C'est tout l'aspect polémique de cette réforme. En France, près d'un étudiant étranger sur deux vient d'Afrique, Maroc, Algérie, Tunisie et Sénégal caracolent en tête. Des étudiants qui aujourd'hui se sentent lésés, voire discriminés par cette stratégie française. Le gouvernement a bien promis que de 7 000, les bourses passeront à 15 000 et seront en priorité destinées aux Africains. Mais avec 150 000 Africains qui viennent étudier en France, seul un élève sur sept pourra prétendre à cette bourse. Abdoulaye Diop attend son cours de sciences politiques, il n'en revient toujours pas.
La première fois que j'ai entendu ça, c'est comme l'effet d'une bombe. Venir imposer ça comme ça, sans une concertation, c'est anormal. Il faudrait quand même qu'on soit sur le même pied d'égalité en fait. Parce qu'il y a des Français qui viennent chez nous sans visa, par exemple. Voilà, il faut qu'on puisse respecter, en fait.
Absence de concertation, augmentation drastique des tarifs. En novembre dernier, les universités parisiennes ont toutes manifesté contre ces mesures. 11 mois plus tard, elles divisent toujours autant. Gaspard Ndioc et Jessica Naïm sont tous deux Français et étudiants en musicologie.
Quel est l'intérêt à arriver à ça, quoi.
Il n'y a qu'en France que les frais d'inscription sont aussi réduits.
Ce n'est pas en augmentant les prix que ça va fonctionner mieux. On doit bien sûr sortir de cette logique économique. L'instruction, c'est l'instruction.
Les autorités françaises, elles expliquent, payer 2770 euros en licence, 3770 euros en master, représenterait toujours moins du tiers du coût réel de la formation, sachant que la France est l'un des pays où étudier coûte le moins cher. Mais la plupart des universités françaises jugent la mesure injuste. Paris 1, Panthéon-Sorbonne a ainsi décidé de ne pas augmenter les tarifs en septembre, Georges Haddad en est le président.
Ben non, on n'accueille pas les gens en leur disant bienvenue et vous payez 10 fois plus que les autres ou 20 fois plus que les autres. D'autant que ces jeunes que nous formons, eh bien, il est clair que c'est un plus considérable pour notre pays. Et donc, quand l'annonce a été faite, moi, ça m'a choqué, pour être franc, et ça m'a fait mal. Je viens moi-même d'Afrique du Nord, de Tunisie, et j'ai toujours considéré que la France, c'était un pays d'accueil.
Pour l'heure, 68 des 75 universités françaises ont choisi de résister, une position qui risque d'être plus difficile à tenir une fois que l'augmentation aura été inscrite dans la loi. Mais pour Georges Haddad, plutôt que les frais d'inscription des étrangers, c'est tout le financement de l'université qu'il faut repenser.
Il est clair que l'université française a cruellement besoin de moyens. Aujourd'hui, nos budgets se construisent dans des conditions terribles. On gèle des postes pour gagner un peu d'argent sur les masses salariales afin d'assurer le fonctionnement, le chauffage, etc. Ce qui est absolument scandaleux. Mais le faire sur le dos d'étudiants étrangers qui espéraient venir en France se former, ça m'a paru absolument insupportable. Je crois qu'il faudrait remettre à plat de manière générale, les droits d'inscription à l'université.
L'une des pistes plus équitables envisagées par le président de la Sorbonne, augmenter de 100 € l'inscription à l'université pour tous les étudiants. Cette mesure amènerait 6 millions d'euros dans les caisses de la Sorbonne, soit autant qu'en augmentant le tarif pour les étrangers uniquement.
Et l'exemple de la Suède n'est pas très encourageant depuis 2011 et l'introduction de frais de scolarité au coût réel pour les internationaux, le pays a perdu 80% de ses étudiants étrangers. En tête des pays qui attirent le plus d'étudiants étrangers, on trouve bien sûr le Royaume-Uni et l'inaltérable prestige d'Oxbridge, deuxième destination favorite au monde. Mais il y a le Brexit et tous les risques liés à une sortie sans accord. L'Irlande pourrait bien en tirer profit, un pays où un étudiant sur 10 est étranger et où les études constituent le premier facteur d'immigration devant le travail ou les demandes d'asile. Alors qui sont ces étudiants étrangers ? Revue de détails à Dublin avec Emeline Vin.
Un quart de ces 13 500 étudiants vient de Chine. Suivent les États-Unis, 15% du contingent, puis le Canada et l'Inde. Ces non-européens, ils s'inscrivent surtout à des cursus de médecine ou d'aide à la personne. Ces étudiants internationaux sont bien plus nombreux que les étudiants européens, à peu près le double. Et leur nombre a fortement augmenté récemment, plus 45% entre 2013 et 2017. Pourquoi ? Plusieurs facteurs à cela. Le développement des pays d'origine, la richesse de la culture irlandaise et puis les perspectives d'emploi dans les domaines de la tech notamment.
Et pourtant, Emeline, l'Irlande fait figure de poids-plume face aux voisins britanniques.
Au Royaume-Uni, ce sont près de 300 000 étudiants non-européens qui viennent étudier, principalement le commerce. Avec seulement 8 établissements d'enseignement supérieur, l'Irlande compte moins d'universités prestigieuses que la Grande-Bretagne. Il y a Trinity College, mais qui fait pâle figure face à Oxford, à Cambridge et à l'University College de Londres. Côté coût de la vie, ça revient à peu près au même des deux côtés de la mer d'Irlande. Impossible évidemment d'obtenir un chiffre précis du coût moyen d'une année d'études en Irlande ou au Royaume-Uni. Ça dépend de la ville, du niveau, du cursus. Étudier la médecine, par exemple, coûte bien plus cher qu'étudier les sciences sociales. Mais côté démarche administrative, l'Irlande perd le match de l'hospitalité. Obtenir un visa prend des semaines. L'administration exige des garanties financières très élevées. Et même si les étudiants ont le droit de travailler pendant leurs études, les employeurs sont souvent réticents à les embaucher. Mais l'Irlande travaille son attractivité en misant notamment sur une perte de compétitivité du Royaume-Uni après le Brexit. Il faut dire qu'avec des frais d'inscription variant de 10 à 45 000 euros, les universités irlandaises comptent sur les étudiants internationaux pour se financer.
Et dans cette concurrence académique et commerciale, la Hongrie tire son épingle du jeu. Les frais de scolarité y sont attractifs, les logements très peu chers et beaucoup de cursus sont désormais en anglais. De nombreux étudiants originaires de Turquie ou d'Iran ne s'y sont pas trompés. À Budapest, Florence Labruyère.
Dans le tramway ou dans le métro de Budapest, il n'est pas rare de croiser des groupes de jeunes parlant le turc ou le farsi. Ce ne sont pas des touristes, mais des étudiants qui ont préféré suivre une filière universitaire en Hongrie plutôt que dans leur pays. Ces étudiants non européens sont de plus en plus nombreux. Ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers en Hongrie et représentent 36% des inscrits dans les universités. Si la Hongrie les attire, c'est parce que le pays est doté d'excellentes universités scientifiques. À Budapest, la faculté de médecine Semmelweis attire particulièrement les Chinois et les Israéliens. Quant aux jeunes Iraniens, ils viennent en nombre faire des études dentaires. L'école vétérinaire de Szent István, en banlieue de Budapest, compte des élèves turcs et chinois. « Dans mon pays, l'enseignement n'est pas de bonne qualité », raconte une jeune iranienne qui veut devenir dentiste. Elle a choisi d'étudier à la faculté dentaire de Budapest, où une section internationale a été mise sur pied. Tous les cours sont en anglais. Certes, pour plusieurs années d'études, débouchant sur un diplôme de médecin ou de dentiste, un étudiant devra verser au total 20 000 euros. Mais ce prix est bien inférieur aux frais pratiqués par les universités anglaises ou américaines. S'ajoute à cela le coût de la vie. En Hongrie, il reste abordable. Un étudiant peut se loger pour environ 300 euros par mois. Les étudiants étrangers sont bien reçus à Budapest, ville cosmopolite, et en province, où les universités accueillent des étudiants non européens depuis des décennies.
Et à l'heure où un commissaire européen chargé des migrations se voit aussi chargé dans l'intitulé de sa fonction de la protection du mode de vie européen, à l'heure où les populistes disent vouloir défendre les valeurs européennes, il est plus que nécessaire de se plonger dans cette histoire commune. Le journaliste François Reinhardt la décrypte pour nous dans son dernier livre « Voyage en Europe » de Charlemagne à nos jours, publié aux éditions Fayard. Comme il l'a expliqué à Catherine Roland, cette histoire commune existe, mais elle ne correspond pas vraiment à la caricature qu'on voudrait nous en faire.
Évidemment qu'il y a une histoire européenne et elle ne nous apparaît pas, évidemment, parce que nous autres Français, on a été percés par une histoire très nationale, très nationaliste même. Hein. Il n'y a que la France qui existe, le Moyen-Âge, il est français, les guerres de religion, elles sont françaises, etc. Alors que, en fait, le Moyen-Âge, il est européen, c'est-à-dire que le Moyen-Âge, avec ses châteaux, ses princesses, etc., ou ses chevaliers, ou ses croisades, il appartient exactement de la même manière aux Allemands ou aux Anglais ou aux Belges, etc. Et il n'appartient pas aux Chinois ou aux Arabes. Donc, il est européen. Les guerres de religion qui sont tellement importantes, pour nous, Français, c'est la Saint-Barthélemy. Mais pour un Allemand, c'est la guerre de 30 ans. Pour un Anglais, c'est la rupture de l'anglicanisme. Tout ça, c'est le même phénomène. Hein. Les guerres de religion, au départ, c'est un moine allemand qui s'appelle Luther qui rompt avec un pape romain. Donc, c'est une histoire européenne. Et bien voilà, j'ai voulu faire un livre pour dire il y a une histoire de l'Europe, il y a une histoire européenne. Nous autres Européens, on peut la regarder en commun. Hein, donc j'ai essayé de faire un livre qui puisse être lu de la même manière par un Allemand, un Espagnol, un Anglais, un Irlandais, etc. Et par ailleurs, pour rendre ce propos attractif, pour essayer de pas noyer le lecteur dans des sommes de guerres et de traités, etc., et de rois différents, je me suis dit, faisons un voyage dans l'Europe.
Alors on va replonger un peu en arrière, hein, on va parler notamment des racines chrétiennes communes. Vous dites, c'est un premier moment d'unité, bien plus que l'Empire romain, dites-vous.
Je rappelle que le christianisme, la plupart des gens l'oublient en Europe, c'est une religion orientale. Et ensuite, cette religion, elle a émigré et elle s'est installée dans tout l'Empire romain. C'est-à-dire qu'il y a un christianisme oriental, celui qui est toujours actuellement en Syrie, en Égypte, etc. Ça date de l'époque de l'Empire romain, ça, parce que l'Empire romain faisait le tour de la Méditerranée. Et ensuite, une partie du christianisme est devenue occidentale à l'époque de Charlemagne, à peu près. Parce qu'à l'époque de Charlemagne, notre petite Europe, elle s'est formée en se séparant de l'ancienne Grand Empire romain. Hein. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il y a eu une unité et il y a une unité chrétienne. Mais alors, cette histoire de racines chrétiennes de l'Europe, c'est très intéressant parce que ça a un fort poids politique.
Hein, en ce voilà. moment, oui, voilà. C'est l'objet de beaucoup de critiques et de commentaires.
Beaucoup en Europe, dans les mouvements de droite identitaire, ils disent, il faut qu'on rappelle que l'Europe a des racines chrétiennes. C'est une manière pour eux de dire, les musulmans, vous n'êtes pas vraiment des Européens. Bon, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Comment dire, le christianisme est un élément fédérateur de l'histoire de l'Europe, évident, mais par ailleurs, il y a toujours eu d'autres religions en Europe, toujours, hein. Le judaïsme est présent en Europe depuis l'Antiquité. Être européen, pour moi, c'est être un fils des Lumières, c'est-à-dire être dans la tolérance religieuse. Donc, quiconque, quelle que soit sa religion, s'il habite en Europe et qu'il lui-même respecte ma religion ou ma non-religion, eh bien, c'est un européen, il est dans l'identité européenne, qui est l'identité de la tolérance religieuse. Il n'y a pas d'autre endroit au monde où il y a ça. Je dis aux Européens, vous vivez dans un petit coin, quand on le compare au reste du monde, qui est un coin de paradis. Donc, en Europe, il y a ça, il y a aussi une protection des libertés, il y a aussi cette question de la tolérance religieuse, qui me paraissent des valeurs européennes très importantes, et qui font qu'on est dans un coin du monde où il y a encore des valeurs démocratiques qui restent et qu'il faut les protéger. Et il faut protéger ces valeurs-là en protégeant l'union de notre Europe. Moi, je suis français, j'ai exactement la même manière de penser, etc., qu'un Espagnol, qu'un Italien, qu'un Allemand, qu'un Belge, etc., parce que notre histoire est commune et j'espère notre futur est commun et qu'on doit protéger nos valeurs à nous. Donc c'est pour ça que je suis un Européen fervent.
Oui, on le sent à travers la lecture de votre livre, vous êtes vraiment profondément européen. C'est peut-être ça aussi, c'est une lecture de l'histoire très subjective finalement pour convaincre les Européens, nous tous, qu'on a une histoire commune.
Alors, quand on fait l'histoire du monde, on voit bien qu'il y a une histoire chinoise, qu'il y a une histoire du monde arabo-musulman, qu'il y a une histoire africaine, alors là c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de civilisations différentes, mais ou qu'il y a une histoire américaine, mais qu'elle n'est pas la même que l'histoire européenne, c'est une autre histoire. Et l'histoire européenne, elle nous est propre, elle nous appartient, et il y a cette histoire qui nous appartient, qui doit marquer le fait qu'on doit avoir un futur en commun.
Voyage en Europe de Charlemagne à nos jours, de François Reinhardt, est publié aux éditions Fayard. Moscou aura bientôt son grand parc d'attractions sur une surface équivalente à 42 terrains de football. L'île du rêve, c'est son nom, ne fait pas rêver tout le monde. Des riverains qui regrettent les espaces verts et des partis d'opposition qui pointent déjà des soupçons de corruption. À Moscou, Étienne Bouche est allé visiter cet immense chantier avec Constantin Goloubiev, le responsable du projet.
Là, nous nous trouvons sur ce qui sera l'allée italienne. Là, vous allez voir une réplique d'un mur du Colisée.
Cet espace commercial abritera magasins, cinémas, salles de concert et donnera aux visiteurs l'impression de se trouver en extérieur. Constantin Goloubiev souligne la spécificité de cette promenade recouverte d'une coupole de verre située à 35 mètres de hauteur. Le parc à thème en lui-même est également entièrement couvert.
Avec la construction de ce site, nous allons devenir leader dans le secteur du divertissement, non seulement en Russie, mais aussi en Europe, parce que les parcs de cette nature sont tous à ciel ouvert, alors que le nôtre a pour particularité d'être adapté à toutes les saisons de l'année. Il pourra accueillir des visiteurs tous les jours, quelle que soit la météo.
La société en charge du projet a obtenu différentes licences étrangères, américaines notamment, afin de pouvoir utiliser des figures célèbres de l'industrie du divertissement. C'est le cas par exemple des Schtroumpfs ou des Tortues Ninja. Moscou aura donc son parc d'attractions. Ce projet entièrement privé est soutenu par le maire de la ville, Sergueï Sobyanin, qui entend incarner la modernisation d'une capitale en mouvement. Mais l'apparition de ce parc est perçue avec scepticisme par une partie des moscovites, en particulier par les habitants du quartier. De l'autre côté de la Moscova, au 20e étage de son immeuble, Tatiana observe avec dépit et résignation les travaux sur la presqu'île. L'année dernière, sur un site internet créé par Sergueï, un habitant du quartier devenu camarade de lutte, elle a publié un texte à charge au titre évocateur. Une île du rêve dans un océan de mensonges. Tatiana et Sergueï jugent ce projet contraire aux intérêts des habitants.
Ma principale critique, c'est qu'on détruise un espace vert. À Moscou, la superficie des espaces verts n'a de cesse de diminuer. Et en voilà encore un qui disparaît pour faire de la place à un centre commercial que l'on veut faire passer pour un Disneyland.
La construction de ce parc d'attractions attire également l'attention de l'opposition. Le principal actionnaire, Amirad Moutsoyev, est le fils d'un riche député Russie-Unie, la formation fidèle à Vladimir Poutine. Alexei Karnaoukhov, directeur de la cellule anticorruption du parti libéral Yabloko, s'interroge sur les conditions d'attribution de ce terrain très convoité.
Quand Sobyanin accorde un terrain à l'entreprise liée à ce député de la Douma qui appartient à son parti, il y a pour nous un conflit d'intérêts, car dans ce cas précis, il est possible que Sobyanin souhaite favoriser son camarade de Russie unie en échange d'un soutien financier au parti. Il y a bien sûr un risque très élevé de corruption.
La municipalité de Moscou souhaite inaugurer le site avant la fin de l'année. Autour du parc, l'aménagement de la berge avec hôtel et port de plaisance est prévu pour 2021.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.